Est-ce que vous m'entendez bien?
Oui.
Parfait. Non, ça devrait être beau. Bonjour à tout le monde. Merci d'être là. On sait qu'il y a un atelier qui est très populaire en haut, donc on vous remercie d'avoir quand même choisi le nôtre aujourd'hui. Donc, pour commencer, on n'a pas de conflit d'intérêts réel ou potentiel à déclarer. Les objectifs de l'atelier aujourd'hui qu'on veut poursuivre, en fait, c'est de définir la vulnérabilité de façon dynamique et contextuelle, déterminer les impacts d'un projet de recherche sur la vulnérabilité des participants et vice-versa, puis aussi proposer quelques pistes de réflexion, dans le fond, pour élargir nos horizons quand on fait l'examen des enjeux éthiques et des projets de recherche qui ont une composante de vulnérabilité. Pour ce faire, on voulait commencer en vous proposant une activité brise-glace. Donc là, la technologie, j'espère, va suivre. Faut que j'arrête le PowerPoint. On m'a dit « Escape ». Ah, ça marche. Super. Et que j'aille ici. Donc, je vais faire plein écran. Hop, plein écran. Voilà. Donc, les instructions. Vous sortez vos téléphones cellulaires et c'est le temps de, oui, aller prendre soit une photo du code QR qu'il y a ici ou aller sur www.menti.com et entrer le code suivant, donc 2555 et 9550. Je vois des pouces en l'air, donc déjà des gens ont réussi à entrer. Vous voyez en haut ce qui est inscrit. Donc, sur chacune des diapositives qui va arriver, le code va rester si jamais vous sortez malencontreusement de l'application, s'il y a quelque chose. On est rendu à 24 personnes. Je pense qu'il y a plus de gens dans la salle, donc je vais attendre encore quelques minutes. Donc, pour le faire avancer, tout à l'heure, j'ai appuyé ici. Je pense que ça fonctionne encore. Donc, vous voyez, on a toujours les coordonnées en haut, si jamais vous n'avez pas eu le temps. Là, mais là, je commencerai avec la première question. Donc, c'est qui êtes-vous pour commencer? Donc, on a mis différentes identités que vous pouvez avoir ici. Puis, si vous ne vous retrouvez pas, il y a toujours la case « Autre », hein, il n'y a pas de honte. On ne pouvait pas être exhaustif dans notre… il y a toutes sortes de gens ici, donc c'est juste pour nous donner un bref portrait. Donc, on voit qu'en majorité, on a beaucoup de membres de CER, de présidents, présidentes et de coordonnateurs, coordonnatrices, ce qu'on envisageait qui serait le cas. Donc, puis-je passer à la prochaine? Oui. Donc, on voulait y aller avec des mises en situation aujourd'hui, dans le fond, de vous mettre dans la peau, puis ça donne bien, là, on est beaucoup de personnes qui sommes dans les comités d'éthique de la recherche ici présents dans la salle, puis pour les autres, bien, ça sera une espèce de jeu de rôle, là, de se mettre dans la peau de coordonnateurs, de membres ou de présidents, présidentes de comités. Donc, la première mise en situation, c'est votre CR reçoit un projet de recherche qui implique des jeunes réfugiés arrivés au pays en tant que mineurs non accompagnés. Donc, pour comprendre les besoins psychosociaux de ces jeunes-là, le chercheur prévoit réaliser avec eux des entretiens sous forme de récit de vie. Le chercheur a indiqué que son projet est à risque minimal, étant donné que les participants sont majeurs, donc ils ont 18 ans et plus. L'évaluation scientifique, elle, est positive. Donc, la question à laquelle on souhaite que vous répondiez, c'est celle-ci. En tant que présidente ou coordonnateur, coordonnatrice du CER, quel choix feriez-vous pour l'évaluation éthique d'un tel projet? Est-ce que, comme le chercheur, vous le qualifieriez sous le risque minimal, puisque les participants sont majeurs et aptes à consentir? Est-ce que vous iriez pour, encore une fois, le seuil du risque minimal, mais cette fois-ci en raison du mode de collecte des données que vous jugez avec peu d'impact, donc des entretiens sous forme de récit de vie? Est-ce que vous le qualifieriez plutôt au-dessus du risque minimal, puisque les réfugiés font partie des clientèles vulnérables, ou au-dessus du risque minimal aussi, mais puisque l'aptitude des participants à consentir est incertaine? On voit déjà qu'il y a quelque chose qui se définit. Donc, je pense que tout le monde n'a pas mal eu la chance de répondre. Alors, je vais passer à la diapositive suivante, qui est une deuxième mise en situation. Donc, une mise en situation, cette fois-ci, plus du côté clinique. Donc, votre CR reçoit cette demande d'un médecin-chercheur. Son patient est atteint d'un cancer pulmonaire métastatique. Il n'y a pas de possibilité de guérison. Il est traité dans un essai clinique de phase 1. Lors de la dernière visite chez le médecin, on a observé chez le patient une confusion nouvelle objectivée et il est convaincu d'être traité pour un cancer du pancréas. Donc, un amendement qui comporte un risque majeur nouveau avec le médicament de recherche doit être présenté et signé et le traitement qui fonctionne doit être administré dans les prochains jours. Le patient désire recevoir ce traitement. Donc, en tant que présidente, coordonnateur ou coordonnatrice ou membre du CR, qu'est-ce que vous suggériez? On a quatre choix de réponse pour vous. Donc, le patient est inapte, il doit sortir du protocole. Deuxièmement, vous demandez à ce qu'un consentement substitué pour majeur inapte soit signé par un tiers autorisé. Trois, le patient doit être traité et l'amendement sera signé ultérieurement si le promoteur accepte. Et quatrièmement, vous demandez l'avis du comité d'éthique clinique. On commence à être autour des 40 réponses. Donc, dans ce temps-là, je me dis qu'on peut peut-être passer à l'autre. Et il y a clairement ici aussi des tendances. La dernière question que j'avais pour vous, donc, c'est quelle serait, pour cette même situation, quelle serait votre recommandation quant au type d'évaluation cette fois-ci? Donc, est-ce que vous voudriez le voir en comité plénier en raison de la gravité de la situation? Ou plutôt en restreint en raison de l'urgence du traitement. Ne vous laissez pas influencer par ce que vous voyez à l'écran. Hein? C'est important d'y aller avec son cœur. Donc, c'est terminé pour cette petite activité. Donc, on va revenir à la présentation principale et nous reviendrons bien entendu sur les présentations, les résultats qu'on a obtenus un peu plus tard au cours de la présentation. La première chose que je voulais faire, moi, aujourd'hui avec vous, c'était de se demander justement un peu plus de revenir à la base. Qu'est-ce que c'est que la vulnérabilité? Qu'est-ce que c'est qu'être vulnérable? Donc, au-delà de l'article 21, comme l'indique notre titre, l'article 21 qui, lui, encadre justement la participation à la recherche des mineurs puis des majeurs inaptes, pour ce qui est de l'éventail de ce que pourrait être ou devenir une clientèle vulnérable dans un contexte de recherche, la définition est, somme toute, assez variable. En plus, l'analyse de la proportionnalité dont on a abondamment parlé ce matin, là, des torts et des bénéfices qui sont attendus pour ce type de clientèle-là, bien, c'est vraiment peu balisé. Donc, c'est pourquoi, dans le fond, on a tenté d'abord de définir c'est quoi la vulnérabilité pour ensuite se donner des outils pour mieux l'appréhender dans une perspective de recherche. Donc, si on veut, la vulnérabilité, ça renvoie à deux éléments. Une exposition ou un manque associé à un risque d'atteinte ou de danger potentiel. Cette disposition-là est commune à tous les humains, dans le fond, mais elle n'est pas distribuée également parmi nous. C'est aussi la vulnérabilité, c'est aussi quelque chose qui va varier, dans le fond, en fonction de facteurs contextuels et individuels, par exemple l'âge ou l'état de santé physique ou psychologique. Elle va aussi beaucoup dépendre, dans le fond, de la sensibilité qu'on a aux événements dommageables, de même que la manière dont chaque personne va s'adapter puis va rebondir face à l'adversité, ce qu'on appelle la résilience. Le concept de vulnérabilité, dans le fond, c'est un concept aussi qui a stimulé vraiment beaucoup de réflexions dans plein de domaines, notamment en éthique de la recherche, mais en philosophie de manière plus large aussi. Puis toutes ces approches-là, dans le fond, par rapport au contexte, coexistent ensemble quand on appréhende le concept. Pour les fins de la présentation d'aujourd'hui, dans le fond, moi, j'ai choisi d'y aller selon trois approches que je trouvais comme qui permettaient de bien vulgariser, dans le fond, le matériel pour nos propres fins. Donc, je suis allée avec une approche individuelle, relationnelle et sociale. Je vais vous définir un peu ce que j'entends par là pour chacune. Dans le fond, l'approche individuelle, elle considère que la vulnérabilité, bien, c'est basé sur un déficit d'autonomie ou de capacité. Dans ce cas-là, une personne va être qualifiée de vulnérable si elle se voit réduite, dans le fond, dans sa capacité de libre choix et qu'elle doit, par conséquent, faire l'objet d'égards particuliers, recevoir, lorsque c'est jugé nécessaire, aussi la protection adéquate contre les abus, les atteintes ou la négligence dont elle pourrait être victime. Cette perspective-là se base sur la prémisse, dans le fond, d'un individu qui serait parfaitement libre et indépendant de faire ses propres choix. Elle oppose d'une certaine façon, la vulnérabilité à l'autonomie. L'approche relationnelle, elle, a défini la vulnérabilité plus à partir du fait d'être lié plutôt que du fait d'être un être autonome. Donc, la vulnérabilité va reposer sur l'interdépendance, dans le fond, des uns à l'égard des autres, puis sur les inégalités que suppose cette interdépendance-là. C'est une approche qui pose un regard sur la vulnérabilité qui met au premier plan, dans le fond, le sens moral, c'est-à-dire la responsabilité qui incombe à tous à l'égard d'autrui. C'est vraiment la justice sociale, par exemple, est vraiment dans cette perspective-là, c'est vraiment au cœur de cette vision de la vulnérabilité. Donc, ici, l'identification d'une vulnérabilité va engager, dans le fond, une double responsabilité, celle que les individus vont se prêter les uns les autres, mais aussi la réponse aux besoins vitaux des plus vulnérables par l'action des autres. L'approche sociale, elle remet la vulnérabilité, dans le fond, au cœur des inégalités qui sont inscrites au sein de la société, de la collectivité. Selon cette perspective-là, la vulnérabilité, c'est pas une forme d'existence commune ou une condition propre à certains groupes, mais c'est plutôt un fait social qui permet de mettre en lumière les effets de la structure sur les individus. Donc, d'un point de vue sociologique, si on veut, là, la vulnérabilité se traduit par des conditions d'existence multiples, diverses et contextualisées, mais surtout inscrites dans des configurations culturelles et historiques singulières. Donc, elle peut se baser sur des critères tels que l'âge, le genre, la classe sociale ou le niveau de revenu, mais elle ne peut pas faire l'économie de la complexité des processus qui définissent, en fait, ces critères-là. Donc, l'analyse de la vulnérabilité sociale, de fait, nécessite aussi une compréhension beaucoup plus fine et profonde des interactions qu'il y a entre les groupes sociaux et aussi entre les groupes sociaux et leurs environnements. En éthique de la recherche, bien que la définition de la vulnérabilité puisse se référer à des critères spécifiques au cadre légal, notamment, justement, on en a parlé, l'article 21, ainsi qu'à toutes les politiques en vigueur, ces cadres normatifs-là ne sont pas toujours explicites. Donc, la définition de ce qu'est la vulnérabilité ou ce que c'est être vulnérable, c'est souvent flou. En 2017, il y a Brackenroch et ses collègues, j'imagine que certains connaissent cette référence, qui ont mené une étude sur 11 politiques d'éthique de la recherche. Il y en avait 5 qui étaient à l'échelle nationale, puis 6 à l'échelle internationale. Puis eux ont fait le constat, dans le fond, que toutes les politiques mentionnent la vulnérabilité, mais il y en avait seulement 3 qui définissaient explicitement qu'est-ce qu'ils entendaient par là. D'autre part, les mêmes chercheurs ont également observé aussi que la vulnérabilité dans l'ensemble des politiques sous-entend implicitement un manque de capacité du participant à défendre ses propres intérêts. Donc, la catégorie vulnérable, dans le fond, regroupe un ensemble de personnes qui, on dirait, en raison d'une situation, d'une caractéristique personnelle ou de leur âge, peuvent pas pleinement protéger elles-mêmes leurs intérêts, dont leur santé, et courent le risque d'être exposées ou plus touchées que les autres. Donc, cette perspective-là, si on y réfléchit dans ce que je viens de vous exposer, c'est une perspective qui est orientée donc, sur le déficit d'autonomie. Donc, c'est ça qui est dominant dans les politiques d'éthique de la recherche. Il y a même certaines politiques fortes, notamment la déclaration d'Helsinki, l'énoncé national australien, puis le rapport Belmont, qui considèrent tous les trois que la vulnérabilité des groupes, c'est un état permanent. Or, les participants à la recherche, comme nous tous, existent dans un contexte relationnel, une réalité sociale mouvante qui se prête difficilement à une catégorisation sans que ça conduise vers des stéréotypes qui peuvent, eux, avoir des effets stigmatisants. On touche ici, dans le fond, là, à ce que je trouve qui est le plus important là, comme constat, c'est-à-dire que l'usage de la notion de vulnérabilité, c'est complexe, oui, mais c'est aussi, ça peut devenir risqué, puisqu'il y a des dérives dans son usage qui sont possibles quant à la responsabilité qu'on se donne en tant que chercheur ou CER dans la protection accordée aux participants. Donc, le PTC2 même nous met en garde, dans le fond, contre un de ces effets pervers-là, qui est de, justement, exclure l'exclusion indue de groupes ou de personnes. Si je reprends le PTC2 tel quel, ça dit « les attitudes et les pratiques surprotectrices, qu'elles soient intentionnelles ou non, de la part des chercheurs ou des CER, peuvent mener à l'exclusion, ce qui, ultimement, peut avoir plusieurs conséquences négatives. » J'ajouterais à ça que le fait de désigner un groupe ou une clientèle comme vulnérable, même dans un objectif très louable de prévention, protection, ça peut aussi enfermer certains groupes ou certaines personnes dans une identité ou une situation qui ne correspond pas vraiment à leur expérience ou à leur vécu. La sociologue Axelle Brodiès de Lino rappelle dans un de ses articles que c'est un terme qui est très peu ou exceptionnellement employé par les groupes eux-mêmes pour se désigner. Donc, il importe vraiment de prendre conscience de ce paradoxe-là, là, dans le fond, que la vision qu'on a et le fait d'identifier des groupes pour les protéger peut conduire à des mesures qui sont susceptibles d'avoir des effets négatifs sur ces groupes-là, même si on souhaite les protéger. Donc, l'effet inverse peut arriver. Je pense que ce n'est pas la dernière version, mais ce n'est pas grave. Une manière, je vais revenir à la diapo parce que, dans le fond, j'avais changé l'ordre un peu. Pour que l'éthique de la recherche sorte des catégories qu'on dit un peu figées, là, justement, et qu'on pourrait critiquer, il y a des travaux qui sont très intéressants, qui ont été faits par Florence Luna. Je vais mettre les références à la fin du PowerPoint, qui montre vraiment ici, qui met en lumière tout le caractère multidimensionnel, dans le fond, de la vulnérabilité. Pour Luna, la vulnérabilité, dans le fond, est constituée de plusieurs strates différentes, puis qui peuvent être acquises ou enlevées une par une, un peu comme les pelures de l'oignon. Ces strates-là sont également en interaction les unes avec les autres, donc elles s'inter-influencent. Puis, c'est une façon de percevoir la vulnérabilité, dans le fond, qui va permettre vraiment la contextualisation, puis qui peut inclure aussi plusieurs définitions en elles-mêmes qui n'obligent pas à sélectionner une seule. Donc, Luna propose d'analyser toute situation de vulnérabilité selon trois niveaux. Vous les voyez ici, dans le fond, les diverses dispositions à être exposées, blessées, exploitées, les conditions qui viennent exacerber ces dispositions, et enfin, les dispositions ou conditions qui peuvent avoir un effet domino ou en cascade sur les autres. Avec cette approche-là, bien, il devient possible de comprendre vraiment toute la complexité d'une situation. Puis cette compréhension-là, fine, dans le fond, peut nous permettre de prioriser les façons de faire, les outils ou les méthodologies qui vont permettre d'augmenter les bénéfices puis de mitiger les risques associés à la participation à la recherche. Donc, une telle analyse peut même faire émerger, dans le fond, certaines pistes pour étendre les bénéfices plus largement, sans se limiter au contexte de la recherche. Par exemple, un projet de recherche pourrait influencer directement ou indirectement la capacité d'agir des personnes dans leur communauté. Elle pourrait aussi contribuer à désinvisibiliser des groupes ou des personnes en les incluant au sein d'un projet de recherche sans qu'il les concerne au premier chef. Un projet pourrait aussi mettre l'accent sur le caractère potentiellement temporaire ou évitable de la situation des personnes qui participent. En fait, plus on élargit la vision des facteurs qui ont contribué à déterminer qu'une personne ou un groupe va être classé d'un côté ou de l'autre, plus on comprend l'importance des éléments contextuels, sociaux, culturels, structuraux qui rentrent en jeu, puis il devient possible d'avoir une prise plus facilement sur ces éléments. En éthique clinique, il ne faut pas oublier aussi que, dans le fond, la participation à la recherche, c'est aussi une expérience de soins. Donc, afin que cette expérience-là soit positive, le partenariat, le PCCC, là ici, c'est le Partenariat canadien contre le cancer, a fait ressortir 4 piliers sur lesquels on peut s'appuyer. Donc, l'unicité du participant et de ses proches, le respect de ses décisions, de son autonomie et le soutien en ce qui a trait aux besoins physiques, émotionnels et pratiques. C'est donc essentiel, dans le fond, dans l'analyse qu'on fait de la vulnérabilité des participants, de se baser sur ces 4 piliers-là qui, eux, réfèrent à l'humanité des soins, ce qui constitue aussi une partie essentielle de la prise en charge des patients. Donc, je vais revenir à mon ancienne... voilà, celle-ci. Donc, bien définir la vulnérabilité va nous permettre de mieux saisir, dans le fond, ce qui se cache sous les étiquettes, de s'ouvrir à la complexité des situations qu'elles recouvrent et de pouvoir restituer le projet et ses participants dans un contexte qui leur est propre. Si on prend, puis là, je veux terminer avec un exemple avant de donner la parole à mes collègues. Dans le fond, si on prend un jeune homme éduqué, en bonne santé, mais qui vient de vivre une situation fâcheuse, donc il vient de perdre son emploi. En dehors de cet événement de vie-là, c'est un individu qui pourrait être défini par nos critères comme autonome et parfaitement libre dans ses décisions. Cependant, la situation qu'il traverse momentanément ou pas va venir quand même redéfinir son statut et le rendre dépendant des personnes qu'il va rencontrer sur sa route. Elle va aussi le contraindre à un nouveau statut au sein de sa société qui va être fonction d'une multitude, dans le fond, de facteurs et de processus qui sont déjà préétablis. Donc, une vision élargie de la situation et du contexte social qui entoure cette personne-là va nous aider à mieux comprendre comment sa participation à la recherche va avoir un impact. Et la recherche, bon, si on essaie de réfléchir dans ce cas-là, pour cet exemple, bien, la recherche, elle pourrait, par exemple, lui apporter une compensation monétaire significative à ce moment-là de sa vie. Elle pourrait aussi lui permettre de s'exprimer sur un sujet qui lui tient à cœur, de se rendre utile, d'avoir ce sentiment-là, du moins. Mais elle pourrait, tout autant, de manière paradoxale, exacerber cet état de dépendance-là et de vulnérabilité qu'il ressent. Donc, une vision décloisonnée de ce qui est être vulnérable pour tel ou tel participant dans tel ou tel cadre va nous amener, dans le fond, à déconstruire l'idée qu'on s'en fait à partir des critères individuels uniquement, puis de pouvoir mieux comprendre les impacts et les effets possibles que ça peut avoir un projet de recherche, dans le fond, pour cette personne-là et vice-versa pour le projet de recherche. Donc, je reviens à la... dépôt ici. Donc, dans le fond, on va revenir sur l'activité brise-glace. Fait que j'espère avoir placé un peu les éléments là, qui vous permettent de réfléchir à ce que on va discuter avec Renaud et Hélène. Dans le fond, on va revenir sur les réponses qui ont été faites pendant l'activité. Donc, je vais inviter Renaud d'abord, puis je vais essayer de t'arranger ça pour que tu puisses... Oui, c'est ça. Allez ici... Donc, on va retourner au départ, la première mise en situation. Et voilà.
Merci, Julie. Donc, la première chose que je voulais dire, là, c'est je suis quand même surpris qu'il y ait un choix de réponse, que ce soit comme... qui soit vraiment plus fort que les autres. Là. Mais ce que je voulais dire, c'est avec les 4 choix qu'on a donnés, il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse là, à cette question-là. Mais c'est sûr que nous, un de nos objectifs avec cet atelier-là, c'est de vous convaincre qu'il y a une zone de réflexion qui est intéressante là, entre le choix de réponse 1, qui serait vraiment une définition purement légale de ce que serait la vulnérabilité, puis le choix de réponse 3, où on viendrait comme... Dans sa version qui est un peu limitée, là, où on viendrait seulement à coller une étiquette aux anciens mineurs non accompagnés, puisqu'ils ne sont plus mineurs. Je pense que j'ai de la misère avec mon micro. Hein, ça,
non, c'est bon.
Non, ça va? OK. Donc, je vais retourner à la mise en situation. Peut-être pour vous expliquer un peu c'est quoi le but de ce que je veux faire, c'est faire un pont entre la partie plus théorique de Julie puis le côté plus pratique, un peu ce qu'on fait là, au comité d'éthique en recherche en dépendance, inégalité sociale et santé publique, là, au CER10 pour faire plus court, parce qu'on est un comité qui est quand même habitué de voir ce genre de projet-là en santé publique. Puis il y a certains points de convergence là, entre cette conception-là qui est plus dynamique, puis de voir la vulnérabilité comme quelque chose qui vient en strate, puis le genre de recommandations qu'on peut faire. C'est certain que bon, dans nos rencontres, on ne cite pas Florence Luna, mais quand même, on arrive à faire certaines recommandations qui sont semblables. Donc, la première chose qu'on pourrait faire, c'est pour nos anciens mineurs non accompagnés, ça serait peut-être identifier, ça pourrait être quoi, les dispositions, là, tantôt on parlait de dispositions qui pourraient les rendre vulnérables. Pour les besoins de l'exercice, moi, j'en ai choisi trois qui seraient premièrement le statut légal, plus au niveau de l'immigration. Il pourrait avoir la barrière linguistique, puis aussi une méconnaissance ou une connaissance partielle du réseau, de la santé et des services sociaux. Donc, il pourrait en avoir plus, mais une fois que ça s'est identifié, bien là, on pourrait voir au niveau des différents éléments, voir s'il n'y aurait pas dans les documents qui nous sont soumis au comité pour évaluation, là, c'est-à-dire le protocole, le FIC, les questionnaires, le mode pour le recrutement, voir s'il n'y aurait pas des choses qui pourraient comme déclencher ou qui pourraient rendre ces personnes-là encore plus disposées à être dans une situation où ils encourraient des risques qu'ils n'encourent pas d'habitude ou qui pourraient les placer dans une situation de vulnérabilité. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est par exemple pour une précarité au niveau du statut légal, bien, ça pourrait être, si on se rend compte qu'en complément, disons, au guide d'entretien, bien, il y aurait un questionnaire sociodémographique qui est très précis, qui viendrait demander des choses comme la date de naissance. Bien, comme on sait que la personne elle peut se mettre dans une situation qui est précaire en parlant de son statut d'immigration, bien, c'est de s'assurer comme à la base qu'on ne recueille pas des informations sociodémographiques qui ne serviront pas dans le projet. Parce qu'on sait que s'il y a, dans une situation comme ça, s'il y avait un risque de réidentification, les conséquences pourraient être plus grandes que dans un projet qui porterait sur l'utilisation du vélo électrique, par exemple. Une autre chose aussi qu'on pourrait recommander, c'est si on voit que la seule façon de consigner le consentement, c'est un FIC qui est signé, bien, on pourrait suggérer à l'équipe de recherche une méthode qui serait comme un peu moins officielle, puis d'avoir un deuxième choix qui serait le consentement verbal. À ce moment-là, ça permettrait peut-être de distinguer le projet de recherche de certaines démarches qui seraient un peu plus officielles puis qui ressembleraient plus à quelque chose de légal. Puis ça pourrait permettre aux participants peut-être de se sentir plus à l'aise. Pour des trucs comme la barrière linguistique, bien, on pourrait regarder au niveau du budget, savoir s'ils ont prévu un budget pour de l'argent pour avoir un traducteur, par exemple, ce qui serait nécessaire dans certaines situations pour s'assurer du consentement libre et éclairé, mais s'assurer aussi que c'est dans le mode de collecte de données, bon, on est avec des histoires de vie, donc pour que le participant soit en mesure de se raconter comme il faut, puis que qu'il soit capable de dire vraiment c'est quoi ses besoins psychosociaux. Puis sinon, au niveau de la dernière disposition, bien, ça pourrait être au niveau de la méconnaissance du réseau de la santé, bien, ça pourrait être de s'assurer, nous, ce qu'on suggère souvent, ce qu'on recommande, c'est d'avoir une liste de ressources qui est déjà prête. Si jamais, le chercheur, il voyait qu'il y a un des participants qui était en détresse psychologique suite à l'entrevue, bien, être capable de le référer à une place qui est... Qui est bonne pour lui, là, que ce ne soit pas juste le 811 ou le site du CIUS. Puis peut-être, dernière considération que j'avais, moi, ce que j'étais le plus curieux de voir là, par rapport aux réponses, c'est vraiment à savoir si c'était pour vous sous le seuil du risque minimal ou au-dessus du seuil du risque minimal. C'est sûr que nous, quand on a des projets comme ça qui nous sont déposés sur Nagano, la coche sous le seuil du risque minimal va souvent être cochée. Je ne m'attendais quand même pas à ce que, tu sais, c'est comme 90% des gens pensent que c'est au-dessus du seuil du risque minimal, ce qui est pas une mauvaise chose, mais moi, à mon avis, c'est un peu, tu sais, dans le cadre d'une présentation comme ça, où on essaie de défendre une conception de la vulnérabilité qui est dynamique, c'est un peu une question piège au sens où autant le seuil du risque minimal qu'une conception qui serait plus en strate de la vulnérabilité, c'est comme deux étalons de mesure du risque qui est encouru par un participant qui sont en compétition, parce que d'un côté, on demande de fixer un niveau de risque de façon définie par rapport à un seuil qui serait la vie de tous les jours. Puis de l'autre côté, bien, on dit que ça dépend beaucoup du contexte, puis il faut voir faut aller creuser dans les différents documents pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser le risque ou enrayer le risque. Donc, c'était ça pour moi.
Je veux revenir à la 2.
La 2. Voilà. Est-ce que tu as besoin de la mise en situation?
Oui, je vais la laisser pour commencer. Bon, alors, la mise en situation, la deuxième, en fait, on touche ici un autre domaine complètement, soit l'évaluation et le suivi continu par un CER d'un essai clinique avec un médicament à l'étude. Alors, dans le cas qui nous occupe ici, on est également dans la toute première phase de développement d'un médicament, d'une molécule, donc la phase 1, ce qui amène ici une notion de risque accru. Et évidemment, on est dans le domaine de l'oncologie qui touche des participants qui se retrouvent dans un état intrinsèque de vulnérabilité en raison de la gravité de leur maladie. Alors, le participant dont il est question présente ici un nouvel état de confusion en cours de projet, ce qui vient toucher son degré d'autonomie en affectant sa capacité de jugement. Alors, comme on le sait, un des mécanismes importants en lien avec le respect de l'autonomie est l'obligation de solliciter le consentement libre et éclairé, mais aussi continu des participants. Alors, on comprend ici que l'absence de compréhension réelle due à la confusion nouvelle pourrait empêcher le participant de consentir de manière éclairée à la modification qui est présentée et qui comporte ici une modification du risque. Alors, la nouvelle version de l'EPTC2 préconise de tenir compte de la capacité décisionnelle des participants qui peut fluctuer à l'intérieur d'un projet de recherche. Elle préconise la mise en place de mécanismes afin de discerner ces changements et d'y répondre. Alors ici, notre chercheur a opté pour consulter le CER, c'est un bon réflexe, pour guider sa réflexion. Alors, dans nos choix proposés, notre premier choix, c'était, le patient est inapte, il doit sortir du protocole. Alors, on sait que selon le principe de la préoccupation pour le bien-être, le chercheur et le CER doivent veiller à ce que les participants ne soient pas exposés à des risques accrus non acceptables. Toutefois, selon le principe de justice, il est nécessaire d'accorder ici une attention particulière à des personnes qui se retrouvent dans une situation de vulnérabilité, ce qui est le cas ici. Alors, dans notre cas, le patient a déjà consenti à participer au projet et il mentionnait que le chercheur s'est assuré que le participant désire recevoir son traitement. Par contre, sa capacité décisionnelle fluctue selon le chercheur. Alors, selon le PTC2, le chercheur et le CER doivent tenir compte du degré de risque auquel le participant sera exposé et des avantages possibles pour lui avant de l'exclure d'emblée, comme le disait tantôt Julie, et de le priver d'avantages potentiels qui aurait à continuer à participer à ce projet-là, selon le principe de justice, évidemment. Alors, le deuxième choix, qui a été très populaire, finalement, alors vous demandez la signature d'un formulaire de consentement pour majeur inapte. Alors, dans le cadre d'un essai clinique qui n'est pas à risque minimal, le recours à un tiers pour le consentement initial à un projet, c'est assez rare, parce que l'aptitude à prendre la décision est habituellement un critère d'inclusion. Dans le cas qui nous occupe, on se retrouve avec un participant qui, de façon permanente ou temporaire, n'apparaît pas avoir la capacité de décider lui-même. Alors, la mise en place de mesures spéciales destinées à promouvoir, à protéger son intérêt pourrait être appropriée. Alors, le chercheur, c'est une bonne question à se poser. Est-ce que le chercheur pourrait vouloir solliciter et confirmer le consentement d'un tiers autorisé dans l'intérêt supérieur de la personne concernée? Alors, la décision du tiers, évidemment, va être fondée sur sa connaissance du participant, sur sa préoccupation pour le bien-être de cette personne. Et la nouvelle version de PTC2 amène une nouvelle notion quand même, qui est la notion des directives préalables, du participant. Alors, si, dans, par les dispositions initiales, on avait demandé aux participants de signer des directives préalables dans lesquelles il exprimerait ses préférences concernant sa participation à la recherche au cas où il deviendrait inapte, ce pourrait être intéressant à considérer, le chercheur et le tiers autorisé pourraient se guider à même ces directives-là. Alors, le choix 3, alors, considérant que le traitement fonctionne et que le chercheur juge que le bénéfice l'emporte sur le risque et est essentiel à la survie, vous suggéreriez que le patient soit traité et que le formulaire de consentement soit signé ultérieurement par le patient ou par un tiers autorisé. Alors, est-ce qu'on se retrouve ici dans un cas où on aurait une dispense de consentement en raison d'une urgence médicale pour laquelle on considère que le participant ne peut donner son consentement en raison de la perte de sa capacité décisionnelle et que le délai nécessaire pour obtenir le consentement d'un tiers autorisé risque de le mettre en danger? C'est une bonne question. Alors, dans le PTC, il y a l'article 3.8 qui nous donne toute une série de conditions à s'assurer de respecter en tant que CER pour autoriser cette dérogation-là. Alors, le quatrième choix, vous demandez d'avoir l'avis d'un comité d'éthique clinique. Bon, étant donné ici que c'est un projet de recherche, ben, le réflexe du chercheur de consulter le CER, je pense qu'il est approprié, puis il peut être suffisant. C'est sûr que dans un contexte hors recherche, un clinicien pourrait choisir d'aller référer également à un comité d'éthique clinique. Bon, on peut se poser la question, pourquoi pas aussi, si je jugeais qu'il voulait avoir cet avis-là aussi. Alors, deuxième question. Là, je fais juste un plus aussi. Oui. Alors, quel serait le type de recommandation quant au type d'évaluation? Alors, c'est sûr que le chercheur va contacter habituellement, va déposer sa demande auprès du coordonnateur du comité d'éthique qui va, bon, souvent consulter le président. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on essaie de donner une réponse à l'extérieur d'une réunion plénière parce qu'il y a, une certaine notion d'urgence dans le traitement du participant, ou si on juge que ça prend absolument un comité plénier parce que c'est trop grave comme décision à prendre. Alors, c'est sûr que, bon, c'est une décision qui n'est pas toujours simple à prendre. C'est sûr que, par contre, le CR doit s'adapter au niveau de risque de la recherche et à l'urgence de la situation, c'est évident. La question à se poser est donc, est-ce que le degré de risque encouru par le participant versus les avantages qu'il aurait à recevoir son traitement dans un délai raisonnable est optimal? Alors, l'agilité et la flexibilité du CR, qui comprend les enjeux de cas comme ça, je pense, est primordial. Et peut-être que dans un cas comme ça, idéalement, attendre la tenue d'une plénière qui pourrait se tenir plusieurs semaines après, mais on peut se demander est-ce que ça pourrait être dans l'intérêt premier du participant. Alors, c'est tout.
Merci. Merci beaucoup, Hélène. Donc, je dois revenir encore une fois à ma présentation. Maintenant, donc, c'est à vous de jouer, comme c'est écrit. En fait, ce qu'on souhaitait, c'était justement que chacune des tables, vous avez des papiers qui sont des gabarits de réponses sur ce qu'on vous invite à discuter. En fait, ce qu'on avait envie, c'était justement de partir de l'article 4.7 de le PTC2 qui dit « Les personnes ou les groupes que les circonstances peuvent rendre vulnérables dans le contexte de la recherche ne devraient pas être indûment inclus ou automatiquement exclus de la recherche en raison de leur situation. » Donc, on voit bien ici qu'il y a une analyse à faire. Donc, cette réflexion-là, le PTC2 donne trois angles pour l'analyser. Donc, d'abord, examiner soigneusement le lien entre la situation des personnes et des groupes qu'ils cherchent à recruter et la question de recherche en cause. Reconnaître et tenir compte des changements dans la situation des participants qui pourraient entraîner, accroître ou atténuer leur vulnérabilité et prévoir des considérations et des mesures de protection spéciales. Et enfin, évaluer la répartition équitable des avantages de la recherche peut nous aider aussi à faire en sorte que les personnes, les groupes et les communautés que les circonstances peuvent rendre vulnérables dans le contexte de la recherche ne soient pas indûment inclus dans la recherche en raison de leur situation. Donc, il y a beaucoup de choses là-dedans. Puis là, on se disait que c'est une politique qui est pas mal interprétée puis appliquée par les chercheurs et les CRR de manière hétérogène. Donc, ce qu'on voulait aujourd'hui, c'était que tu sais, collectivement, vous partagiez vos façons de faire à ce niveau-là, comment vous vous interprétez les choses, comment vous travaillez. Puis pour ça, on a préparé comme 4 questions à discuter en groupe. Ces 4 questions-là sont quelles questions, justement, qu'est-ce qui vous permettent habituellement de cerner c'est quoi le contexte ou la situation qui rend les personnes vulnérables? Est-ce qu'il serait utile de se demander si le projet, par exemple, se situe sous le seuil du risque minimal? Est-ce que c'est une question qui est utile? Ensuite, on voudrait aussi vous entendre sur la façon d'obtenir, dans le fond, les informations les plus pertinentes pour répondre aux questions que vous vous posez. Puis, est-ce que vous utilisez des choses, des outils? Ça, c'est une question vraiment pour faire un peu le tour. Est-ce qu'il y en a qui ont développé des grilles, des méthodes pour aller justement chercher les éléments de contexte? Ça serait intéressant de nous en faire part. Puis, ultimement, bien, l'article 4.7 et son application, on voulait savoir si vous le trouviez clair. Puis s'il y avait des améliorations à apporter, quelles seraient-elles? Donc, on vous demande de désigner un rapporteur à chacune de vos tables, d'en discuter ensemble, de prendre des notes, puis on demandera à une personne après de revenir en grand groupe pour en parler. On vous donne 15 minutes pour faire la discussion, puis ensuite, ça sera le retour en plénière. Merci.
Thank you.
Il reste une minute, donc si vous êtes genre rendu encore à la question 1, peut-être regarder pour y aller rondement. Alors, on va reprendre, si vous voulez bien. Donc, je vois que les discussions étaient animées, tant mieux. Maintenant, vous avez tous désigné un rapporteur pour qu'on puisse partager tous ensemble le fruit de vos réflexions. Donc, Hélène va se promener avec un micro pour récolter vos questions. On va commencer, on va y aller question par question, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Vous comprendrez qu'il nous reste seulement 15 minutes et on veut faire une petite conclusion aussi. Donc, on va commencer par la première question, donc, qui portait sur justement les questions qu'on va se poser pour cerner le contexte, puis aussi est-ce qu'il est utile de se demander si le projet se situe au-dessous du risque minimal. Donc, à cette question, est-ce qu'il y aurait d'abord, premièrement, quelques volontaires qui se lanceraient pour briser la glace? Est-ce qu'il y a un rapporteur qui serait prêt à se lancer, nous faire signe? Sinon, on va y aller selon... Oui, on en a une. Son degré d'autonomie. Parfait, merci, c'est très intéressant. Est-ce qu'on aurait sur la même question une autre table qui souhaiterait se lancer au fond? Merci. Merci, c'est super intéressant. Puis je pense que vous amenez même avec ce que vous proposez un peu une réponse à la question numéro 3 là, au niveau de la méthode et des outils. Je pense que ce que vous avez proposé est intéressant à ce niveau-là aussi pour se donner un peu des barèmes plus précis. On irait peut-être avec la question 2. Donc, comment vous obtenez les informations les plus pertinentes pour justement répondre à toutes ces questions-là de contexte? Est-ce qu'il y a une table qui se porte volontaire ou Hélène, tu... Ah, juste à côté, parfait. Ou encore
peu comme les réviseurs littéraires, là, qui va adapter le projet de recherche aux caractéristiques des populations visées.
Merci. Est-ce qu'il y a, sur la même question, d'autres personnes qui seraient… Oui. Excellent, merci beaucoup. Est-ce que sur la question 2, il y avait autre chose aussi, où ça fait le tour? On peut passer aux outils peut-être ou aux choses que vous avez concrètement développées. Est-ce qu'il y en a qui ont émergé et qui seraient intéressants de faire connaître aux autres personnes ici présentes? Comme, oui... C'est intéressant parce qu'effectivement, se servir de ce qui est déjà là, mais en peaufinant, ça peut être vraiment une bonne avenue. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des choses, justement, des réflexions de ce type-là? Ou, oui, on a juste ici Gabrielle. Super, merci. On m'indique qu'il est midi, donc je vais essayer de faire rapidement, peut-être prendre une ou deux réponses sur la dernière question qui était fondamentale, je pense. Peut-être aller dans le fond de la salle. Là. Ultimement, donc, l'article 4.7, le trouvez-vous clair? Est-ce qu'il y aurait des améliorations qu'on pourrait apporter peut-être à la table du fond là? Non? Ah, vous n'avez pas eu le temps. Est-ce qu'il y en a qui ont eu le temps? Il y a des volontaires qui ont eu le temps là-bas. En quelques mots. parfait. Est-ce que non, il n'y avait pas d'amélioration possible, c'est clair? D'accord. Alors, je vais passer la parole quelques minutes à Catherine pour conclure l'atelier, puis ensuite, vous pourrez aller manger.
Oui, quelques minutes très brèves, en effet. J'avais juste peut-être d'ailleurs une question à vous poser. Dans la première question du Mentimeter, il y a quand même eu près de 10% d'entre vous qui ont répondu qu'ils ne correspondaient pas aux catégories qui avaient été proposées. Est-ce qu'il y en a qui pourraient me dire dans quelle catégorie socio-professionnelle ils se profilent ? Parce que je me dis qu'on a raté quelque chose. Bon. Non ? Ok, parfait. Peut-être juste revenir sur le fait que la recherche est garante de progrès et qu'elle se doit, je pense, d'être respectueuse, rigoureuse, transparente. Et pour ça, il y a les CER pour y veiller, bien évidemment. Mais en recherche clinique, on a ce fameux formulaire de consentement éclairé que vous connaissez tous pour ceux qui en ont entre les mains. Et ce formulaire de consentement éclairé, Madame Villelmi en parlait un peu plus tôt, ressemble beaucoup à une brique non comestible plutôt qu'à un document digeste. Alors c'est sûr qu'il satisfait aux exigences du législateur, il satisfait aux exigences du promoteur, mais je pense qu'il ne traite pas de la réalité de la vulnérabilité qui, de fait, dans la loi, ne se résout qu'à deux entités. Et je pense que peut-être le futur, et vous avez plusieurs d'entre vous donné d'excellentes idées, je trouve, aujourd'hui, dans le futur, des groupes de réflexion qui seraient ouverts et inclusifs, incluant donc non seulement les partenaires évidents qui doivent participer à ce genre de recherche, mais les patients partenaires, dont là encore, on a longuement parlé depuis ce matin, également probablement les communautés. Je pense que c'est important de les intégrer à une réflexion ouverte en vue de créer ces fameux outils et d'avoir ce que j'appellerais au final un formulaire de consentement éclairé A ou M, A pour agile ou M pour mobile, mais qui permettrait d'ajuster finalement en fonction de la trajectoire du patient la réalité par rapport à la recherche qu'il est en train de vivre. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, merci vraiment pour cet atelier fort stimulant. Il est midi, donc si la faim vous tenaille, je vous invite à passer au foyer. En fait, là, c'est à la même place que la salle de bal à l'extérieur. Les lunchs vont y être servis. Donc, voilà, merci beaucoup encore pour votre participation.